Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 24 juillet 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici les précipitations estivales que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Il y a aussi quand vous regardez un nanar des années 60-70, vous savez ce que veut dire l'expression « Ah, viens admirer ma collection d'estampes japonaises » ou ce genre de choses.
Radio FMR présente le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Et oui, je sais, cela fait 3 semaines que nous avons arrêté et que nous sommes donc de retour avec beaucoup, 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 beaucoup de plaisir pour vous retrouver dans le supplément week-end numéro 245 avec, ma foi, beaucoup de sujets cette semaine, beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de...
On t'avait pas dit de te calmer avant, on avait des auditrices qui nous ont appelé pour nous dire « Das Creek, calme-toi ».
Non, tu veux dire « L'œil de Moscou » ?
Oui, aussi.
Ah bon, d'accord.
Non, ça t'a pas
coucou
fait du
Suzanne.
Bien.
Ça t'a
pas fait du bien ces vacances. Si, t'es pas plus
détendu. Si, c'est vrai qu'on s'est arrêté pendant 3 semaines, principalement parce que nous sommes respectivement allés voir nos familles et respectivement nous avons porté hommage, nous avons fait souhaiter un joyeux anniversaire à nos géniteurs respectifs. On peut au moins 2 sur 3. Quoique du sport.
Sport, il s'est ressourcé dans sa région natale.
Ouais, ouais.
Mais c'est demain ton anniv.
En plus, ouais.
Voilà, c'est anniversaire pour le coup.
Voilà, en avance.
Désolé, on n'y avait même pas pensé au reste. Mais ceci dit, y a plein de choses qui sont arrivées cet été. Il y a eu notamment entre-temps Japan Expo et un sujet sur la télé-réalité. Bon, bah, on va le faire cette semaine, on fera ça après. Sur Japan Expo, il y a aussi le prix de la critique pour lequel on a participé. Je vous laisse juste deviner qui parmi ceux qui étaient en compétition, lequel a gagné. Alors,
moi je sais.
Bah, de toute façon, je pense pas que ce soit très difficile. 2 espresso de Kan Takahama chez Casterman, Folle Passion de Kazuo Kamimura chez Kana, L'île Panorama de Maruo Shuero d'après Ogawa Rampo, toujours chez Casterman, Le Juge Bao de Chun Gui Nie et Patrick Marty, c'est chez Fei, et Pluto de Naoki Urasawa d'après Osamu Tezuka chez Kana.
Et qui, c'est
bon, je vous laisse deviner, je tue immédiatement le suspense. Il y en a un qui a eu déjà plus de 30% des suffrages dès le premier tour.
Qui a eu 450 prix à travers le monde, dont on a fait une pub énorme dans l'émission. Et c'est donc plutôt l'ami de Mickey.
Voilà, d'après une histoire de Aspo, le petit robot.
Mais non, la réplique après, c'est le chien de Mickey.
Oui, exact. Exact en plus. Donc plutôt qu'on ne peut que vous le recommander, et donc je suis fier d'avoir participé à ce qu'il soit élu cette année au prix Asie ACBD 2010, remis à Japan Expo dans le cadre du festival, dans le prix officiel. Ça change du festival d'Angoulême.
Mais dis-moi, plutôt on en est à combien de tomes là pour l'instant?
Le troisième vient d'arriver.
Le troisième vient d'arriver.
Il est en chronique la semaine prochaine.
D'accord. Ils sont où ces deux premiers tomes d'ailleurs? Est-ce que tu les as...
Oui, je les ai récupérés.
Ah, je te les ai rendus. Hein.
Oui. Bon, pourquoi Thomas les a toujours pas lus?
Non, pas encore.
On va éviter de spoiler d'ailleurs. Mais ça vaut vraiment le coup. Complètement à part, juste une chose à signaler, c'est que si le week-end prochain, vous avez autre chose à foutre que nous écouter, parce qu'après tout, il y a le podcast, hein, vous n'êtes pas obligé de nous écouter en direct, et vous pouvez prendre plaisir à nous écouter en différé, et ben sachez qu'il y aura le festival de la bande dessinée qui aura lieu, la fête de la BD aura lieu dans sa 19e édition dans le Gers, à Eos, premier week-end d'août, place de la cathédrale. C'est un grand classique de cette émission et ça vaut vraiment le coup d'y aller parce que à chaque fois. Il y a un nombre limité d'éditeurs, c'est les organisateurs eux-mêmes qui limitent le nombre de personnes qui viennent. Et ils sont accessibles et plein de choses sont à faire. Donc ce sera le dimanche 1er août. Parmi les auteurs qui sont sur place, donc pas mal d'auteurs qui reviennent régulièrement, tout simplement parce qu'ils habitent dans le coin, et d'autres parce que ils se sont tellement plu que ils reviennent. D'ailleurs, il y en a qui vont exprès au camping plutôt que louer ou aller chez des amis, uniquement parce que il y a des belles balades à faire, le camping en plus, il y a une piscine, donc ça vaut le coup et c'est un très beau coin. Je rappelle quand même que Eos est la capitale de l'Armagnac, donc si vous voulez reconnaître un Belge, c'est très facile. Il est tout rouge. Voilà. Forcément. Parmi les auteurs qui sont présents à cette édition cette année, HD, Joël Azara, qui habite dans le coin, Biz, Bois Commun, Boulette, Brazao, Cabane.
Tu attendais que je te reprenne ?
Oui.
Non, c'est Boulet.
Bon, d'accord, mais pourtant non. Je t'avais scripté ce
gars. Je sais pas, on le connaît pas ce type, on parle jamais en plus ici.
Katmalou, Cécile, Corbéran, Cortegiani, Alcouteli, Didier Cromwell, De Gieter, Delaby, d'ailleurs il y aura une expo de ses œuvres, DJ Pierre Dubois, Ernst, Serge Goulesque, Bénédicte Bourdon, Haussmann, Jarbinet, Large, Liberge, Lugui, Pierret, Pixel Vengeur, Soumja, Stiban, Tillier, Van Lintou, Vink, qui fait entre autres Le Moine Fou, Westerlin, Widem Locher, bref, vraiment un panel complet, puisque Widem Locher et HD par exemple font surtout de la jeunesse, Alcouteli fait plutôt du polar, Didier Cromwell de la SF, Serge Goulesque fait de la jeunesse, Pixel Vengeur dessine entre autres dans Fruit Glacial et dans Le Psychopathe. Il y aura les fanzines qui sont présents dès le samedi. Et le programme du dimanche est très simple, dédicace de 10h à 13h, puis de 15h à 19h, petit déjeuner en plein air, apéritif à midi, apéritif le soir. Il y aura des petites curiosités, notamment une expo de Marcel Marlier, qui est le dessinateur de Martine. Voilà. C'est parce qu'après tout, on se fout bien de la gueule de cette œuvre jeunesse, mais peut-être que vous la connaissez mal. Et c'est l'occasion, après tout, pour justement découvrir, c'est des reproductions, c'est pas des originaux. C'est l'occasion. C'est fait par une sympathique bande d'allumés de la bande dessinée qui donne vraiment de leur temps pour faire quelque chose de sympa et qui vaut vraiment le coup. Et en plus, si vous passez le week-end sur place, allez voir l'Armagnac. Il y a aussi le circuit Paul Ricard d'ailleurs dans le coin, le musée du Condon à Condon. C'est histoire de ne pas faire capoter le week-end si jamais il pleut.
Je crois que tu te trompes, le circuit Paul Ricard c'est au Castellet, c'est dans le sud-est. Là, c'est le circuit de Nogaro. Qui est à côté.
Ah merde.
Ouais, à une vingtaine de bornes d'Eos, en fait, à l'ouest.
Non mais c'est bien parce qu'on on prouve que c'est du sport qui s'occupe de la page sportive ici.
Plus, ouais, plus d'informations si vous voulez, on vous met le lien.
Dans le pays de l'Armagnac, là pas loin des côtes de Saint-Mont et tout ça. Alors là c'est pas de sport dont il s'agit. On parle de Ricard, là, ça la fout vraiment mal. Quoi. Vraiment, ça la fout très mal.
Ça la fout très mal. Plus de détails sur le 19e, sur la 19e fête de la BD d'Eos, vous allez sur le site supplementweekend.fr, sans accent ni tiret, supplementweekend.fr, où, outre les chroniques et tout ça, vous allez dans nos chroniques, vous allez tomber sur le lien direct vers le site officiel, donc avec les auteurs, invités, les festivités et tout le reste. Vous écoutez Radio FMR, 12h09, c'est le supplément week-end. Au 245, et ma foi, on a beaucoup de programmes qui nous attendent. On va même ressortir les jouets tout à l'heure. Donc, on va enchaîner avec les chroniques de bande dessinée. vous explique un peu la blague, c'est qu'on a été obligé de reconfigurer le studio, on a retourné l'ordi de proc des jingles et tout ça pour que Dusport puisse faire une recherche pour sa chronique de tout à l'heure. Faut dire que je l'ai prévenu que hier soir tard que il y avait émission demain. C'est pas très poli. Tu sais qu'il va falloir que j'en ai besoin avant la fin de cette chronique, hein, de l'ordi. On va faire ça autrement alors dans ce cas-là. Pardon.
Je disais, c'est non, il faut que je fasse une photo.
Vous écoutez Radio FM, c'est le supplément week-end. Et du coup, j'inverse à la volée. Ma prog, voilà. On va parler d'une adaptation d'un manga, en manga d'un jeu vidéo, Suidoken 5. De Mizuki Tsuge, du moins c'est lui qui fait l'adaptation en manga de ce jeu vidéo. Le Château de l'Aurore, c'est le nom de cette série, micro-série je veux dire entre guillemets, puisqu'il sera en 4 épisodes. Et les deux premiers tomes sont sortis dans la collection Shonen Game chez Kaze Manga. Suidoken 5, c'est le cinquième volet. Forcément, d'une saga de jeux d'aventure initiée par Konami et qui était sortie sur PlayStation 2. Oui, je dis pas jeu de rôle parce que pour moi, jeu de rôle, c'est pen and paper, tu vois, c'est pas rien à voir. Bref, inspiré d'un roman chinois hyper classique du 14e siècle, c'est la Wikipédia qui le dit, merci du sport d'avoir cherché. La spécificité du jeu vidéo, c'est qu'on pouvait jouer avec 108 personnages différents, ce qui donne quand même une richesse. En termes de personnages scriptés par l'ordinateur, assez hallucinante. Et le manga reprend cette impression d'aventure chorale, en sens qu'il n'y a pas forcément de personnage principal, mais plutôt une logique de groupe, avec un meneur suivant la situation. Bon, allez, je mens un peu. Le héros, eh ben, c'est le prince que l'on a au tout début, qui d'ailleurs dans le jeu vidéo ne porte pas de nom, et qui dans la mangas, eh ben, il s'appelle Ardil. Ce jeune garçon est le fils de la reine Archdat Falenas, gardienne de la rune du soleil, l'une des 108 runes qui gouvernent ce monde. Lourde charge pour elle, car malheureusement, il semblerait que le pouvoir de l'artefact magique ait tendance à prendre le pas sur sa personnalité. C'est ainsi qu'elle a rendu complètement aride une région, en représailles au vol de la rune de l'aurore qui aidait justement à stabiliser sa rune du soleil. Ardil découvre donc que le pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Et aussi les dessous des jeux sacrés, grands tournois prestigieux où vont se défier les plus grands combattants du royaume. L'enjeu, la main de la petite sœur, de sa petite sœur, Lin Seiya. Celui qui donc sera sacré le grand guerrier de Faena, deviendra chef des armées et ensuite le roi du royaume. Graphiquement, le service de table est irréprochable, même si le bestiaire fantastique fait plus penser à des Pokémon. Oui, je m'excuse, mais quand j'ai vu les Adams, ça m'a fait penser à ça. Et ben, cette BD est dans les canons du genre médiéval fantastique, croisant les cultures européennes et asiatiques, mais sans réelle créativité par contre pour les décors. Par contre, le scénario est assez dense, touffu, et ceci d'autant plus que le rythme a été imposé d'avance. Il n'y aura que 4 tomes. 4 tomes pour faire intervenir 108 personnages. Oh, voilà donc un manga pas trop ruineux pour l'été. Ça vous reposera les yeux de la console de jeu. N'oubliez pas, hein, ça, il faut faire une pause tous les 5 fruits et légumes par jour. Mizuki Tsuge, Suidoken 5, le château de l'aurore, tome 1 et 2 sur 4, c'est sorti chez Shonen Game, collection qui est distribuée par Kaze Manga.
Oui, juste un petit mot sur le jeu, puisque moi je n'ai pas joué à ce jeu, mais ça avait
été édité. Non plus, hein, j'ai triché.
Ça avait été édité par Konami et c'est l'éditeur également de beaucoup de grosses références qui sont Silent Hill ou enfin dans le même.
Dans le même cadre. Mais attention, ils sont plus voilà, comme tu l'as dit, ils sont éditeurs, c'est-à-dire ils sont plus vraiment studio de développement. C'est comme quand on parle des studios hollywoodiens, ils sont maintenant plus producteurs, c'est-à-dire ils sont bailleurs de fonds, ils distribuent sous leur marque. Même si je crois quand même que Konami essaie de contrôler relativement, le développement des jeux. C'est pas aussi marqué que
Nintendo.
Nintendo. Oui, c'est vrai que Nintendo aussi produit en extérieur. Pardon, je dis une bêtise.
Mais bon, ce n'est pas notre parti et nous accepterons tout à fait de nous faire flageller si nous avons dit des erreurs.
On va enchaîner avec de la BD franco-belge. On va commencer par de la BD franco-belge qui est éditée chez Kana. Non, c'est pas un contresens. Parce que c'est vrai que Kana, c'est l'éditeur de manga du groupe Dargo. Mais accessoirement, ils ont une collection qui s'appelle Kiko, dans laquelle on a eu quelques ouvrages généraux qui étaient assez intéressants, comme par exemple Pourquoi les Japonais ont les yeux plissés, ont les yeux bridés. Et d'ailleurs, l'histoire, quand on lit le bouquin, est assez hilarante sur l'origine. Pourquoi les Japonais se forcent à plisser les yeux. C'est un peu le mythe de la passoire le premier samedi du mois sur Canal. Scénarisé par Thierry Gloris et dessiné par Cyriel, ça s'appelle Tokyo Home. Et donc là, c'est une bande dessinée qui est une fiction cette fois-ci. Par contre, dans cette collection, on a plutôt des guides pratiques. Julie a été horriblement déçue par sa mère et elle a décidé de la quitter d'une façon radicale pour ses 17 ans. Elle a pris un aller simple pour Tokyo chez son père, car son père, elle ne l'a pas vu depuis des années, depuis qu'il est parti s'installer au Japon. Ah, le Japon, cet archipel tout à droite de la carte, pays des sumo, des dessins animés et des yakuza qui ont la tête de Takeshi Kitano. Déconne pas, c'est comme ça qu'elle le voit dans la BD. En clair, elle ne connaît que les clichés d'ado romantique et en partie totalement. Elle s'est exilée en terra incognita. Gros souci, son père ne s'est jamais occupé d'elle. Il a complètement oublié à l'aéroport de Narita. Ceux qui connaissent l'aéroport, ça va, il est juste gigantesque. Son portable envoie sur son répondeur. Et voilà donc Julie qui ne parle ni ne lit le japonais, à devoir traverser la grande mégapole en espérant trouver l'appartement de son père avant la nuit tombée. Même si Julie arrive à se faire facilement des amis, va-t-elle réussir à passer la barrière de la langue ? Va-t-elle se faire accepter dans un pays qui ne l'attend pas ? Et surtout, comment va-t-elle y refaire sa vie ? Est-ce que, au moins, son père va l'accepter malgré l'épreuve infernale qu'il va lui imposer ? Apprendre le japonais en un temps absolument record. Alors attention, parce que ce n'est pas un manga, mais produit par les auteurs français, et sous le couvert d'une charmante fiction, leur intention est de nous faire découvrir quelques facettes du Japon. Néanmoins, Bon, c'est mignon, c'est attachant, mais hélas, il y a des erreurs de scénario et de sacrées imprécisions. Primo, n'allez pas avec votre téléphone portable au Japon, il ne fonctionnera pas. Même votre iPhone, c'est pas la peine. Faut pas prendre ça pour un reportage ou une autobiographie, car le Japon y est décrit d'une manière fortement idéalisée. Mais par la grâce du dessin de Cyriel, hélas en noir et blanc, parce que sur son blog, quand on voit les dessins qu'elle fait en couleur, ça déchire. C'est touchant, c'est adorable et ça fera chavirer plus le cœur de petite fille. Thomas, tu me traiteras pas de petite fille. Non. Thierry Gloris au scénario, Cyriel au dessin, Tokyo Home, c'est dans la collection Kiko chez Kana. Et c'est charmant tout plein, c'est beau, c'est beau.
Tu as le droit d'avoir des yeux brillants avec des étoiles dedans et des petits dégradés derrière de rose. On te jugera pas.
Ouais. D'accord. Merci Dus, tu m'as fermé la recherche. Bon. puisque tu as ramené Okusa et tu peux en parler, 5 minutes, attends que je refasse. Enfoiré. du Okusa et donc que tu as ramené, du même auteur que Cyborg 009.
Oui, si tu le dis.
Bah non. Mais...
Tout à fait.
Ah oui, pardon, attends,
donne.
Tiens, rafraîchis-toi les mirettes.
Alors, à prime abord et tout, ça a l'air d'être un gros pavé. C'est un gros pavé, Il y a presque 600 pages, un peu moins de 600 pages. De toute façon, c'est donc, de Shotaro Ishinomori, qui nous a fait aussi Tendre Passion, ou, c'est ça, le titre de l'autre, quoi.
Non, c'est pas du tout le même auteur.
Non?
Non. C'est pas du tout les mêmes. Même si Tendre Passion se déroule à la même
oui,
époque.
Oui,
avec un
voilà, voilà, c'est
non, mais
ça.
Okay. Tu as le droit de dire que tous les mangas se ressemblent.
Non, quand même pas.
Oh la baffe!
Quand même pas. Alors, ouais, tu peux dire ça à propos de Hokusai, parce que si l'histoire, eh bien, est quand même une histoire très classique, hein, qui se déroule dans le Japon du 19e siècle, eh bien, avec. En fait, ce qui m'a vachement amusé, c'est que pour une histoire qui est classique, on va dire donc située dans le temps et qui est une histoire plus ou moins vraie, on va dire, hein, eh bien, on retrouve vraiment tous les canons du manga, c'est-à-dire dans le dessin, dans le graphisme, avec les expressions des personnages et tout, l'étonnement, la colère, tout ça. Tu sais, avec les visages vraiment caractéristiques du manga pour jeunes enfants, on va dire, hein, pour enfants. Et par contre, bon, l'histoire, elle, n'est pas faite pour les enfants du tout. Ça nous raconte donc l'histoire de Hokusai qui est un peintre, on va dire, un dessinateur, un graveur et tout. Et au fur et à mesure, on va remonter dans le temps et on va apprendre toute la vie de ce bonhomme à travers bien sa vie professionnelle, mais aussi sa vie amoureuse, hein, parce que les deux s'entremêlent, on va dire. Et ce qui est très intéressant dans ce bouquin, hein, c'est que, eh bien, on suit le cheminement de ce bonhomme à travers sa carrière artistique et dessin à l'appui, c'est ça qui est assez intéressant. Eh bien, on arrive à voir un petit peu le cheminement, pas l'amélioration, on va dire, parce que ce qui se passe, c'est que le type change de style à chaque fois, essaye de se réinventer et essaye d'arriver à un absolu, on va dire, hein, qui est vraiment caractéristique en fait du bouddhisme zen, d'ailleurs. Ouais, la caractéristique de ce bouddhisme japonais qu'on appelle aussi le shintoïsme. Le shintoïsme n'est qu'une petite partie en fait des différents bouddhismes qui ont été adaptés à la culture japonaise.
Ma chronique de base faisait 8 minutes, il va arriver à la dépasser. Je rappelle que c'était il y a 3 semaines.
Non. Mais par contre, c'est vraiment super bien foutu, hein. À partir du moment où on commence à prendre le livre, on commence à rentrer dans l'histoire, eh bien, il n'y a pas de problème. On est pratiquement obligé de se le taper du début jusqu'à la fin. Bon, c'est assez chaud par moment, hein. C'est-à-dire que il y a quelques caractéristiques sexuelles qui nous sont dévoilées, hein, qui nous font rappeler justement ce qui était dit en avant-première justement à propos de ces fameuses estampes japonaises dont Hokusai en
c'était
fait
c'était mon intro
oui dont Hokusai en fait était l'un des maîtres et ce qu'il y a d'intéressant également dans ce bouquin c'est que ce qui est aussi assez caractéristique des mangas c'est que très souvent il y a des petits astérix avec en bas les explications techniques pour les pauvres européens que nous sommes et qui n'avons pas cette culture
japonaise. Et ça a surtout été fait par le traducteur, hein.
Ouais, c'est ça. C'est ça surtout quoi, mais qui nous apprend beaucoup de choses en fait, pas mal de choses, eh bien sur cette période et sur cette période artistique en fait qui a été une période artistique qui a influencé assez fortement l'art européen à cette période charnière, hein, de l'art, surtout de la peinture en fait, mais qui a également été influencé, on l'apprend dans ce bouquin quoi, par les artistes européens. C'est ça qui est assez rigolo, cette espèce de renvoi d'ascenseur, on va dire, hein, entre les deux cultures complètement différentes et surtout beaucoup de distance. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion, donc ça mettait vachement plus de temps. Et on apprend que les influences sont allées dans tous les sens, c'est-à-dire dans les deux sens en fait, de l'Europe vers le Japon, vers l'Asie en général, hein, et de l'Asie vers l'Europe. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans ce bouquin. Hokusai donc de Shotaro Ishinomori. Ah, je suis presque arrivé à le dire d'un seul coup, tu vois.
Très bien.
Sorti chez Sensei donc.
Surtout que je t'ai pris au pied levé.
Ça vaut vraiment.
Enfin, c'est
vraiment le coup.
Collection Sensei chez Kana.
Ouais, chez Kana. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Bon, par contre, ouais, c'est vrai que c'est pas fait pour les plus jeunes.
Moi, ce que je trouve dommage, c'est le format un petit peu réduit. S'il aurait gagné quand même à prendre 2-3 cm de chaque côté.
C'est vrai, parce que il y a certaines planches, hein, qui sont des illustrations, on va dire, de ce qu'est capable de faire, de ce que fait effectivement cet artiste, qui, dans leur format réduit, ben, on n'apprécie pas totalement. Mais ça donne quand même un très bon aperçu. C'est pour ça que dans l'autre bouquin, là, qui est d'un format un peu plus important.
Alors,
là,
en plus, dans la même collection, oui, c'est assez rageant.
Là, quoi. Vraiment, on en prend plein, pas mal dans la gueule. Hein. C'est vrai que de ce côté-là, ça vaut vraiment le coup. Et on sort complètement de l'univers pictural mangaesque dont on a l'habitude.
Dont tu as l'habitude.
Parce que bon, il y a deux parties, quoi. Enfin, disons, il y a la partie vraiment manga, dessin, et l'autre partie qui est l'illustration de ce que peut faire Okusai ou autres.
En tout cas, ça le vaut vraiment.
Ça y est, t'as retrouvé ta page.
Ta gueule. 12h27 sur Radio FMR et la régie publicitaire est en vacances. On va continuer les sorties bande dessinée avec du polar pur et dur. Mats au scénario, Luc Jacquemont au dessin. Le tueur, le 8e tome, s'appelle L'ordre naturel des choses. C'est sorti dans la collection Ligne rouge chez Casterman. Le tueur est une... je veux dire, c'est un emploi, hein, attention. Hein. Problème quand on commence à faire carrière dans le terrorisme, d'ailleurs, c'est qu'on commence par idéalisme, par politique, militantisme. Au bout d'un moment, on ne fait plus que pour l'argent. Tenez, regardez Carlos. Non, je parle pas du chanteur. Pour le tueur du titre, c'est à peu près la même chose. Que cela soit pour le communisme, pour le trafic de drogue ou pour... Non, en fait, c'est pour l'argent, point barre. Pas de scrupules, pas de regrets. Tout ce qui compte, c'est que la viande soit saignée, démontée, éparpillée, refroidie. Non, le compte en banque compte plus que tout, en fait. Et dans ce cas-là, on se fait tellement d'ennemis qu'il vaut mieux que personne ne connaisse votre nom. Même pas le lecteur. Non, je parle pas d'Hannibal Lecter. C'est pour cela que le personnage principal, vous ne le connaîtrez que sous le nom de son métier. Il y en a qu'on appelle le facteur, d'autres le boulanger, l'huissier de justice, le policier. Ben lui, vous l'appellerez le tueur. Heureusement, quand on bosse internationalement en indépendant, on peut compter sur de bons clients au point de leur proposer une carte de fidélité. Cuba a besoin qu'on descende une huile pour amener les bienfaits du communisme dans un pays d'Amérique centrale. Oh, c'est facile comme un coup de fusil à lunettes. Hein. Non, pas comme ça le coup de fusil. Un franchisé qui tente de prendre de vitesse ses fournisseurs de poudreuse, une arme de poing devrait le remettre dans le droit chemin. Non, le vrai problème dans ce genre de job, c'est quand on a une femme, un jeune fils. Bref, qu'on a tellement prospéré qu'on a cru pouvoir monter une petite famille dans un coin, tranquille. Au mépris des clients, pas contents, ou des rancuniers, ou de la concurrence. Le tueur est une série de bandes dessinées qui se rapproche des romans noirs à fond sociétal comme Le Poulpe. Non, je parle pas de Paul, non. Ou ceux écrits par Dainax. Non, je parle pas du cycliste, non. Avec à la fois le rôle désabusé, le côté anarchiste, tout pour ma gueule. C'est par les mêmes auteurs que Cyclope. Par contre, j'ai toujours du mal avec le style graphique de Luc Jacquemont et c'est un peu dommage. Par contre, le scénario de Matt, j'adhère franchement bien. Le tueur, tome 8, L'ordre naturel des choses, c'est dans la collection Ligne rouge chez Casterman.
Par contre, c'est un détail dont on ne parle pas souvent dans les bandes dessinées, mais je note que Xavier en parle quand même. C'est le texte. Et là, il est illisible, franchement. Il est,
ouais, c'est vrai que ça a été lettré informatiquement et la police de caractère qu'ils ont choisi, y a beaucoup mieux sur Dafont, quoi, c'est clair.
L'interligne est quasiment inexistant.
Des fois j'en ai explosé, mais c'est pour ça que c'est peut-être ça finalement qui fait que j'ai pas trop apprécié graphiquement le bouquin. Ouais.
Ah ouais, ça fait mal aux yeux. Hein.
C'est vrai que c'est une lecture qui est un petit peu difficile de ce côté-là. Merci de l'avoir fait remarquer. Hop, je le rajoute pour la saisie papier. Oui, sur le net, puisque vous allez sur supplementweekend.fr et vous retrouvez toutes nos chroniques écrites. En tout cas, une bonne partie. Donc voilà. Hein ? Non ? Bon.
Non, mais en plus, il y en a. Il y a du texte, c'est ça, quoi.
Ouais, mais en plus,
en
le
plus,
texte.
C'est des tartines, quoi, c'est ça, quoi.
Et le texte est hyper intéressant,
bah,
puisque
oui,
c'est.
Oui, j'imagine.
C'est le narrateur titre, hein. C'est le tueur qui raconte son côté désabusé, ou bien qui remet en place certaines choses de l'histoire officielle. Quand il parle des cow-boys et des indiens. Oh putain! Ça envoie et c'est. C'est très bien, mais voilà, c'est dommage pour le lettrage. Vraiment. peut-être pour ça que j'ai pas chroniqué les sept précédents tomes à l'époque quand ils étaient sortis. Philippe Richel au scénario, Marc Régnier au dessin, et cette fois-ci c'est, ça passe un petit peu mieux à la lecture. Média, le premier tome s'appelle Idéalis, c'est sorti chez Glénat en mai dernier. Oui, je sais, pardon, désolé. Manu a eu un destin un petit peu chaotique, il a été un peu jeune, c'est-à-dire qu'il a complètement oublié de s'instruire, préférant s'abrutir devant la télévision 5 heures par jour. Pas de mère pour surveiller ses devoirs, c'est un ado en révolte avec tout le monde, ses profs, son père. Un jour où il blesse gravement un de ses éducateurs de son internat, oui parce qu'il est en internat, son père, la société l'envoie mieux étudier dans un foyer judiciaire. Waouh, bah on va dire que ça l'a pas vraiment aidé. Son père meurt d'un accident de travail, l'enquête est enterrée malgré les éléments accablants contre l'employeur. Bref, Manu reste amer envers la société. Mais pas rancunier, une fois sa peine purgée, il monte à Paris et tente de trouver un travail afin de prouver à la société qu'il vaut mieux que ça. Après différents boulots, il se retrouve pigiste dans une boîte de production audiovisuelle. Ah, la télé, ses strass, ses paillettes, ses vedettes, ses publicitaires et ses patrons de chaîne qui fricotent avec la politique. Point d'en dicter le contenu du JT. Ah, pardon, excusez-moi. Seulement pour émerger, il n'y a qu'une solution quand on est pauvre, sans diplôme et pas d'amis dans la haute finance. Il faut avoir l'idée géniale. Alors, l'histoire monte. Le début de la vie de Manu est très accéléré, on entre dans les bureaux directionnels par les intrigues secondaires et on voit comment une cascade d'événements en très haut lieu va bouleverser le destin de ce jeune homme. Mais la fin du premier tome ne nous a pas encore mené au début du montage du projet de Manu, un projet télé, un projet qui se moque ouvertement de la société civile, qui chie à la tronche de tous les spectateurs, l'application de ce qu'il a appris en foyer judiciaire d'une manière soi-disant ludique. La télé-réalité. Car oui, le loft, machin story, ce que vous voulez, c'est finalement transformer les téléspectateurs en matons. Toute ressemblance avec des sociétés, personne, fait existant ou ayant existé, ne serait qu'un jeu purement scripté. Alors, rien que pour le fun, je vais vous sortir le raccord que, il y a 3 semaines, était totalement pertinent au moment où j'ai écrit cette chronique, à savoir que Castaldi a dit dans une interview toute récente: on a les téléréalités de qualité, voire même les meilleures du monde en France.
Bon.
Secret Story était censé être à sa dernière saison l'an dernier. Ils viennent pourtant de le relancer. La Star Academy n'en finit plus de mourir. M6 a annulé la diffusion de sa téléréalité trash, Trompe-moi si tu peux, à la suite du suicide d'un de ses candidats. Hein. En même temps, ils auraient du mal à faire autre chose. Au Royaume-Uni, c'est la toute dernière saison de Big Brother. Et comment dire, la chaîne qu'il diffuse, Channel 4, va réussir à nous faire regretter Big Brother. Pourquoi ? Ben, ils ont fait une bande-annonce. Comment dire ? Ça commence comme un enterrement façon Nouvelle-Orléans.
We say goodbye to you now, big brother of ours. May we remember the good times, those times when you helped each other in tasks.
Là, ils enterrent le fauteuil, en fait.
Big Brother, the final series, coming soon on 4.
Il n'y a pas à dire, les Anglais, même pour faire de la merde, ils font de la qualité. Alors, vous allez dans Supplément Week-end, vous cherchez Big Brother dans le moteur de recherche, parce que je l'avais bookmarké, et là, j'ai oublié de vous le remettre en une. C'est un court-métrage parfait, où en fait le logo de Big Brother se retrouve dans des immortels où ils enterrent tous les éléments symboliques de cette télé-réalité, où en fait c'est un enterrement où tout le monde fait la fête, c'est complètement délirant, et là c'est là où TF1 annonce que c'est la dernière saison de Secret Story. Ils ont pas fait un truc aussi cool. Ça, c'est clair.
Ce qu'il y a de marrant, c'est que les deux seuls programmes de télé-réalité qui persistent encore et qui ont quand même une bonne image encore aujourd'hui, ce sont les deux seuls programmes qui échappaient quand même un petit peu à l'aspect télé-réalité, qui étaient Koh-Lanta et La Nouvelle Star, puisque c'est plus télé-crochet.
Tu jeu en oublies, hein. Allez, je te le dis de suite. C'est je chie à la gueule de ton menu alors que tu es un cordon bleu.
Ah ben, il est presque parfait.
Eh oui, forcément.
Eh ben, remarque, quand c'est sur le mérite, ben, finalement, ce sont des programmes qui restent. Oula, j'ai du semen froid ici.
Merde.
Non, il a dit un truc bien, merde. Non, mais ça vole tellement haut qu'on n'est pas habitué, tu vois. On n'est plus habitué. Franchement.
Non, attends, si tu fais de la chronique à ce point sur la télé-réalité, mais où va-t-on, nom de Dieu, où va-t-on? On va de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'on était parti du Japon, on est passé par l'Europe et on repart avec du comics. Et en ce moment, d'ailleurs, c'est le Comic-Con de San Diego.
Ouais.
Et on a vu la nouvelle bande-annonce de Tron Legacy qui sortira début d'année prochaine. Enfoiré.
La nouvelle, pas la première.
Oui, le nouveau film.
Non, mais je veux dire, la nouvelle bande-annonce. La deuxième, d'accord, ok.
Où en fait, on voit le personnage principal, mais au début des années 80. Et il y a un putain de travail, et après, quand il se retrouve dans Tron, encore une fois, on voit que les cartes vidéo ont sérieusement évolué dans le monde de la Matrice.
C'est le pro qui parle.
Uncle Sam.
Uncle Sam, vous connaissez tous ce personnage emblématique qu'est Uncle Sam. Alors, dans cette réédition chez Panini Comics, c'est sorti chez Vertigo. La première était sortie en deux parties, en comics librairie, non, en comics kiosque, on va dire, ou au comic shop aux États-Unis, des librairies spécialisées dans les comics. En 97, dans la foulée, on avait édité le bouquin.
Je crois que c'était chez Le Téméraire, d'ailleurs, que c'était sorti. Donc ça n'a pas été super bien distribué par moment aussi.
Peut-être. Et c'était sorti en France chez l'ancêtre, on va dire, de Panini. Enfin, ceux qui étaient avant Panini, à savoir Semic.
Non, j'ai dit Le Téméraire, c'est une autre boîte.
Non, c'était chez Semic.
C'était chez Semic. D'accord, chez Semic. Ok. Bah, je me suis planté. Vous oubliez les 4 premières secondes. On coupera au montage.
Voilà, pour le diff. Présenté en compétition comme étant le meilleur album de l'année au Festival d'Angoulême en 2003. Hein, oui, bon, oui, monsieur.
Bon, d'accord.
Et enfin, on peut dire réédité. Donc, chez tous vos libraires BD préférés, il est en tête de gondole. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Il n'y a pas de problème. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. Et plus que le coup d'œil, d'ailleurs. Scénarisé par Steve Darnall et Alex Ross. On va pas dire dessiné car c'est peint par Alex Ross, hein. Lui c'est la peinture, et donc ça nous raconte donc.
Si vous avez vu Marvel, enfin il fait des affiches, il fait des posters, des affiches, des couvertures absolument super, mais quand il fait de la BD c'est.
Voilà. D'ailleurs, Marvel est à l'origine en 93, un projet commun de Steve Darnall et d'Alex Ross.
Hein,
et Alex Ross, par la suite, il a continué Kingdom Come. On présente plus, hein, de toute façon, d'Alex Ross. Il a également fait Earth X, le projet Super Power. Et c'est un spécialiste. Maintenant, on l'utilise uniquement, pratiquement, pour faire les couvertures, hein, des différents comics qui sortent. Hein. Parce que bon ben il le vaut bien sûr. Alors Uncle Sam, là ben on connaît ce personnage mythique, on va dire, hein, ce qui est très intéressant, c'est que là Uncle Sam, sous la plume de Steve Darnall et d'Alex Ross, eh bien va se retrouver confronté dans ses rêves, dans ses rêveries, on va dire, à différents événements, dans différentes situations des États-Unis. En fait, c'est une critique vraiment acerbe sur ce que sont les États-Unis, sur la façon dont les gens, dont les Américains, entre autres, ont la façon dont les Américains ont de voir leur propre pays, leur propre histoire et le rapport de leur pays par rapport au monde. Et c'est ça qui est vraiment très très fort, hein, dans Uncle Sam, c'est que à travers quelques événements historiques qui sont vérifiés, très précis, qui sont pas forcément connus d'ailleurs des Européens, hein, parce que bon, bah, on connaît surtout les grands événements historiques américains, la guerre civile, la participation des États-Unis aux différentes guerres mondiales, et puis bon, passé cela, bon, peut-être la Constitution 1776, et puis à part ça, hein, la conquête de l'Ouest, ça c'est le truc imagé pour nous faire regarder des westerns, mais à part ça, on connaît pas grand-chose de la véritable histoire et comment ça s'est formé. On se rend compte que c'est un gros bordel, hein, que ça a toujours été une source de conflit, entre les différents migrants qui venaient de différents pays, pas seulement d'Europe, mais du monde entier. Et la mayonnaise a toujours eu du mal à prendre. La mayonnaise a toujours du mal à prendre. De toute façon, hein, ça continue. Hein, aux États-Unis, on voit bien qu'il y a des clivages qui existent entre.
On parle plus de melting pot, mais on parle de mixing boil plutôt. Ouais. C'est-à-dire pas de fusion, plus de creuset de fusion, mais plutôt de Macédoine. Hein.
Alors donc, dans Oncle Sam, à travers cette vue un petit peu de rêverie dans la tête d'Oncle Sam, eh bien, on revisite donc ces quelques événements et on propose eh bien une analyse un peu critique, fortement critique, on va dire, de ce que peut être eh bien la mémoire commune américaine. Et c'est là qu'ils font très très fort, parce que bon, c'est vraiment très rentre dedans. On n'en ressort pas indemne. Les petits clichés qui sont bienveillants qu'on peut avoir sur l'Amérique et tout, ben ils volent tous en éclats, mais alors d'une façon magistrale. Et en revisitant non pas seulement le mythe d'Oncle Sam, hein, le fameux Oncle Sam Wants You que tu connais très bien, mais qui a été décliné sous d'autres formes, hein, eh bien on apprend également que Uncle Sam était en concurrence avec Columbia, la fameuse Columbia, hein, qui est représentée dans ce livre, et dans sa rêverie, Uncle Sam va se confronter à Columbia. Il va également se confronter à, je me rappelle pas son nom, mais la femme qui est l'emblème de l'Empire britannique, Britannia justement, quoi, et qui à ses côtés a ce fameux lion, le lion de l'Empire britannique. Hein,
c'est marrant
parce
que
Three Lions du maillot de l'équipe de football.
Ça fait beaucoup penser au roman Gods de Neil Gaiman.
Ouais, mais
American Gods, pardon.
American Gods. Oui, tout à fait. Mais par contre, là, eh bien, on est vraiment dans l'espèce de mélange qui est nettement plus critique, politiquement parlant. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on en prend plein la gueule et tout. Et Uncle Sam, tel qu'il est décrit dans ce livre, bien, est plongé dans les en Amérique, mais en tant que clodo, c'est-à-dire c'est un charclot qui traîne dans la rue et tout, qui y a des gens qui lui pissent dessus, il se réveille.
Note avec un queue de pied et un chapeau de forme.
Oui, c'est-à-dire qu'il a son, il a les fringues d'Uncle Sam, hein, c'est-à-dire le chapeau avec les étoiles, la redingote, le fut avec les rayures. Enfin bon, voilà, c'est la personnification d'Uncle Sam. Mais par contre, bon bah, il arrive à comme ça. À errer, hein, dans cette société américaine contemporaine, on va dire, et justement par des souvenirs, par des rêveries et tout, par des voyages dans le temps, eh bien, on en apprend vraiment énormément, hein, pas mal, sur quelques plans de l'histoire américaine. Hein. Il se retrouve à côté de John Fitzgerald Kennedy quand il se prend 3 balles dans la tête. Enfin bon, plein de choses comme ça. Et ce qu'il y a d'encore plus intéressant dans cette réédition, c'est que bon, une préface déjà magistrale de Gray Marcus, ça le fait dans un bouquin, ça y a pas de problème, hein, pour ceux qui connaissent Gray Marcus. Mais par contre, à la fin du bouquin, outre la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire les différentes couvertures, on va dire, quoi, de Uncle Sam peintes par Alex Ross, puis les petits croquis de préparation et tout qui font baver tous les dessinateurs en herbe, et là il y a de quoi, il y a pas de problème, hein, avec les storyboards, enfin bon, tout le truc, quoi. Il y a également, eh bien, l'histoire de l'oncle Sam, c'est-à-dire la vérité historique à propos de comment l'oncle Sam est né, comment est-ce que ça s'est passé, qui a trouvé cette expression Uncle Sam au départ, et puis on apprend tout simplement que bon, c'était un marchand de viande qui fournissait les armées américaines et qui avait donc un oncle qui s'appelait Samuel en fait, et donc par un jeu de mots un petit peu zarbi, ils ont trouvé cette espèce de surnom Uncle Sam. Et on sait qu'après ça a été repris au 19e siècle, ça c'est dans l'historique, par cette fameuse affiche, par un des affichistes qui a été les plus connus au 19e siècle aux États-Unis et qui a décidé d'un petit peu de marquer le coup, qui a repris ce personnage qui, entre-temps, était un petit peu tombé dans l'oubli. Hein, personnage qui est né à la fin des années 1700, 20 ans après la Constitution américaine, et qui, dans les années 1800, est un petit peu dans l'oubli. Au milieu du 19e siècle, eh bien, un super dessinateur vachement connu, un des dessinateurs les plus connus qui travaillait dans un journal, dans un quotidien, eh bien, a décidé de reprendre ce personnage, et ce personnage est devenu ce qu'il était à l'orée de la Première Guerre mondiale, quand justement est paru cette espèce d'affiche « I want you », qui a été utilisé, qui a été un petit peu détourné, on va dire. Et on la retrouve d'ailleurs avant le début de la Deuxième Guerre mondiale sous la plume de Will Eisner. Will Eisner qui s'est servi d'Uncle Sam, qui en a fait un de ses personnages principaux pour une BD, mais en détournant également le propos à propos concernant Uncle Sam, dans une version un petit peu plus satirique, on va dire, de Uncle Sam. Bref, c'est une franche réussite, hein, c'est un bouquin que tout le monde devrait avoir de toute façon, hein, parce que là vraiment ça vole très très haut. Et j'ai même pas encore parlé de la qualité picturale, mais enfin bon, oui, bon on connaît Alex Ross.
Il travaille d'après photo, mais il est recréé complètement. Ouais, il est ouais, décalé quelque part.
Ça fait peur. Absolument monstrueux, quoi. C'est bon.
Ah ouais. c'est de la peinture à l'huile, voilà.
Oui, c'est de la peinture, mais bon, il y a la mise en case, il y a le découpage. C'est absolument énorme de toute façon. Donc c'est Uncle Sam, Steve Darnall et Alex Ross, paru chez Panini Comics dans la collection Vertigo. Rien de plus à dire, hein, parce que bon ça va quoi.
On va baver
ça des potes. Hein. Alors vite fait dans un autre registre, enfin toujours dans le registre comics, Spider-Man hors série numéro 31 est paru. Disponible donc ce mois, hein, mois de juillet, donc profitez-en, il va bientôt dégager des kiosques de vos libraires, de vos journaux préférés. Alors, dans ce Spider-Man hors-série qui est sous la mouture Dark Reign, hein, c'est-à-dire que c'est toujours Norman Osborn qui contrôle plus ou moins le monde avec son Hammer qui a remplacé Iron Man, alias Tony Stark, qui lui était du Shield. C'est pas vraiment une histoire de Spider-Man, mais ça s'attache plutôt à décrire l'histoire un peu plus fouillée de Martin Lee. Martin Lee qui est ce millionnaire d'origine asiatique, chinoise d'ailleurs, qui apparaît un petit peu plus tôt dans la saga des Spider-Man à partir du numéro 100, parce que c'est l'employeur de Tante May. Et Tante May qui travaille dans un foyer, qui aide les nécessiteux, qui leur procure de la nourriture, qui leur aide à avoir une éducation, des petites choses, à reprendre pied dans la société. Et en fait, un super méchant est apparu très tôt dans la nouvelle saga de Spider-Man A Brand New Day, qui s'appelle Mister Négative, lors de l'arc du tueur au traceur, hein, on sait que un autre méchant, Mister Négative, à un moment essaye de s'occuper de Spider-Man, n'y arrive pas. Et en fait là, bien, on apprend un petit peu plus de choses sur Martin Lee et sur Mister Négative, parce qu'en même temps, eh bien, Norman Osborn qui du côté légal, eh bien, a ce Hammer qui est le pendant du Shield, donc pour contrôler un petit peu le monde, pour contrôler un petit peu le monde de façon policière, eh bien de l'autre côté a son côté obscur, bien entendu, hein, qui est la Cabale. Et dans la Cabale, eh bien, il a toute une équipe de super vilains.
C'est que t'es arrivé à partir du moment où tu parles de Spider-Man, de personnages secondaires, d'intrigue, d'arc et tout ça. Il suffit que tu dises le mot Spider-Man, t'as largué tout le monde.
Non, mais qui arrive justement avec des équipes de super-vilains en soin, dont le chef des super-vilains qui n'est autre que Hood, le fameux Hood. Et tout ça donc dans une histoire complète en trois parties, hein, la force des ténèbres, Battle for Chinatown, c'est Spider-Man et Mister Négative. Et une deuxième histoire complète, mais là, à propos de Anti-Venom, et là c'est assez bien foutu quand même. Moi j'aime bien parce que c'est vraiment l'histoire rentre dedans, parce que là Anti-Venom fait alliance avec le Punisher pour dégommer une bande de trafiquants de drogue mexicains qui veulent lui choper sa petite copine à Anti-Venom, et ça le rend vraiment très vénère. Sans doute. Vraiment vénère. Et bon, ça charcle beaucoup, c'est très trash de toute façon. Hein, c'est vraiment du truc pour adultes, là, il n'y a pas de problème.
Par contre, graphiquement, c'est pas. C'est intéressant.
Graphiquement, ouais,
ça
n'a
pas l'air pas trop mal, quoi. Ça change un peu du mainstream habituel, un peu trop rapide.
Ah ben non, là, c'est quand même du bon. Hein. Pour le mystère négatif, c'est Van Lente au scénario et Gugliotta, ainsi que Pattison au dessin. Et pour le anti-Venom, je vais vous le trouver de suite. C'est Sikira et Checoto, c'est-à-dire un dessinateur brésilien, en fait, qui s'occupe de cette saga anti-Venom. Mais moi, j'aime bien, hein, ça le fait bien de toute façon. Donc, c'est le Spider-Man aux séries numéro 31, c'est ce mois-ci, donc. C'est donc dans le gros arc qui s'appelle Dark Reign, qui va bientôt se terminer. Je vous rassure, pour ceux que ça emmerdait un petit peu, de savoir que Norman Osborn, il s'était attribué toute la gloire de l'éviction des Skrulls après cette fameuse invasion des Skrulls.
Hein, allez, on y repartit.
Et ça y est, punaise.
Non. Allez, c'est bon.
Ah oui, non, mais j'ai eu peur, quoi. Break musical, c'est pas trop tôt. We are scientists, Jack and Ginger. Jack and Singer de We Are Scientists. Non, La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas.
Et oui, aujourd'hui on sort les jouets. D'accord.
Ah merde, non, je me suis trompé de carton. Vas-y.
Allez, aujourd'hui c'est Toy Story 3, film d'animation de Lee Unkrich et produit donc par les studios Pixar.
Je me suis encore trompé de carton.
Alors, souvenez-vous, Andy, donc c'est l'enfant de Woody le Cowboy et Buzz l'éclair et leur confrère jouet. Ben, en fait, il a bien grandi et il va bientôt partir à l'université. Donc, le truc, c'est que vont devenir les jouets? Alors, pensant qu'Andy veut les jeter suite à un quiproquo du scénario, les jouets, ils s'enfuient et ils atterrissent dans la crèche de Sunnyside. Le paradis pour des jouets, assurer que les enfants joueront bien avec eux. Il y a plein d'enfants, donc c'est bon, ils vont s'éclater, ils seront jamais délaissés. Et ils rencontrent même plein de nouveaux jouets super accueillants. Sauf que trois petits poux. C'est trop beau, évidemment.
Ah oui.
Trop beau pour être vrai. Alors, donc Toy Story 3, donc c'est la conclusion de la trilogie des jouets. Alors, dans le premier épisode, on avait les états d'âme de Woody le Cowboy, donc c'était un jouet plutôt old school, qui était menacé d'être supplanté par l'autre jouet plus évolué, avec qui était plus SF, donc c'était Buzz l'éclair. Deuxième épisode, on avait le questionnement entre choisir entre une vie bien remplie, donc tu finis jouet abîmé avec une mort à force d'avoir été joué avec, enfin à force que l'enfant ait joué avec toi, ou alors tu vis beaucoup plus longtemps, sauf que c'est comme une petite mort puisque tu t'emmerdes parce que t'es derrière une cloche dans un musée ou entre les mains d'un collectionneur. Donc, c'était le topo du 2. Et donc dans le troisième épisode, que deviennent les jouets quand l'enfant qui joue avec eux, il part à l'université? Alors c'est soit le grenier, soit la poubelle, soit vous verrez ça dans le film.
Alors, oui papa, je peux stocker mes jouets dans le grenier? Non, il y a déjà les miens.
Voilà. Alors on poursuit, Pixar poursuit sa veine mélancolique amorcée dans le précédent film de Pixar qui était Là-haut. Donc souvenez-vous, l'intro de Là-haut, je sais pas si...
Ah ouais.
Donc là, forcément, même le plus endurci, tu fonds en larmes devant l'intro.
Est-ce que tu veux dire que le chef de studio commence à avoir un certain âge?
Oui, ou alors il a d'autres préoccupations dans sa vie, je sais pas. Alors, je parle de Là-haut, mais il faut savoir que dans chaque Pixar, t'as toujours une part de tristesse. Souvenez-vous dans Nemo et la famille du père à 99% massacré. Donc Monstres et Compagnie aussi, t'avais la petite fille, est-ce qu'elle va rompre le lien avec Minou, comment il s'appelle, le Sullivan. Bon voilà, c'est toujours une pointe de tristesse à chaque fois dans les Pixar, une pointe de nostalgie, de mélancolie, et là ce nouveau film ne déroge pas à la règle bien sûr. Alors c'est la seule et unique pour l'instant série de Pixar, donc il y a 3 épisodes, cet épisode m'a tout l'air d'être la conclusion de la série. Sachant qu'ils ont à chaque fois fait un one shot, à part les Toy Story, on a toujours le même plaisir à retrouver les jouets. Donc évidemment, le film commence avec une formidable introduction super débridée. Donc c'est dans le Far West. Alors t'as Buzz l'éclair qui aide le cowboy à arrêter une diligence qui est attaquée par la diabolique. Tirelire cochon avec Monsieur Madame Patate qui sont là de passage, voilà. Donc évidemment on comprend vite que c'est le trip de Andy quand il est encore petit qui lui joue avec, il fait des explosions avec des biscuits, etc. Et finalement en fait dans tout le reste
c'est comme ça qu'a commencé Michael Bay.
Oui, explosion. Et en fait cette intro en fait c'est un peu le cache-misère du film puisque tout le reste du film c'est vachement un peu dans le pathos, c'est plus attendu et finalement tu retrouves jamais l'inventivité, le côté débridé de la petite intro au début. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que Pixar à l'époque de Monstres et Compagnie, de Mille et Une Pattes, c'était n'importe quoi leur script. C'était ça qui était génial, c'est que à un moment donné Mille et Une Pattes c'est juste des fourmis qui demandent l'aide à une troupe de cirque qui est fait par des mille pattes, une coccinelle, etc.
Remake des 7 samouraïs, oui, voilà. Et puis les 7 mercenaires. Enfin, c'était complètement improbable, c'est ça qui était génial.
Oui, voilà. Oui. Et alors que là, tu vois que finalement, c'est un symbole de ce que devient Pixar. C'est-à-dire qu'ils font quand même des films un peu plus attendus, même si la qualité est toujours au rendez-vous. Mais tu perds un petit peu le côté inventivité où tu vois le script avant d'aller voir le film. Tu dis, mais c'est comment ils ont fait pour penser à ça? Alors ensuite, le film, le reste du film est bien, mais bon, t'as quand même des bon, t'as encore des bons moments comme Buzz l'éclair qui est réinitialisé en espagnol, donc il se transforme en espèce de l'hombre espagnol. Bon, vous allez voir ce que ça entraîne. On a la rencontre de Ken et Barbie. Et oui, Ken rencontre Barbie dans ce film.
Ouais.
Alors je vous dis ça, ça a l'air rigolo comme ça, mais c'est vrai que moi ça me fait plutôt penser à l'humour de Shrek. Justement le côté irrévérencieux par rapport à des grosses institutions. Alors que Pixar d'habitude, bon, dans le film il y a Totoro, sauf que Totoro il n'était pas utilisé en tant que Totoro. C'est pas, ils vont pas faire boire de la bière à Totoro et en train de roter parce que ça fait appel à tiens Totoro dans le film de Miyazaki il fait bah. Dans Shrek il aurait fait ça. Là c'est juste un Totoro qui est complètement muet, tu le vois en second plan, mais c'est juste pour faire la référence. John Lasseter c'est un grand pote de Miyazaki, donc il fait la petite référence. Et c'est vrai que la rencontre Ken et Barbie et Buzz transformés en espagnol, c'est vraiment, on est plus dans l'humour Shrek. Alors c'est ça qui est un peu dommage. Les mauvais côtés du film, c'est que on a quand même quelques longueurs. La poursuite finale, mais je l'ai trouvé vraiment interminable parce qu'ils sont une grosse poursuite, menacés par d'aller à la poubelle. Donc voilà, tous les jouets se font l'entraide entre eux. On a pas mal de personnages qui sont plutôt des archétypes en fait. On a un festival de jouets antipathiques, alors que bon, dans les autres Toy Story ou dans les Pixar, t'as juste un méchant parfois, mais c'est quand même le côté merveilleux à chaque fois, parce que bon, il faut savoir qu'il y a Disney qui est derrière. Même dans Ratatouille, qui était vraiment ancré dans l'univers réaliste de Paris, enfin réaliste entre guillemets, tu as quand même un méchant, mais finalement tu vois que la nature humaine est super bien. Les Indestructibles, c'était un truc à part. T'avais le méchant BD. Et c'est vrai que là, t'as quand même une dimension maléfique qui est vraiment très ancrée. Et puis les méchants qui sont pas vraiment... ils sont attendus. Et puis franchement, moi j'ai pas trouvé ça convaincant en fait. Mais bon, ça c'est comme mon avis. Ensuite, bon voilà... ce qui reste, c'est que c'est une petite déception, mais c'est toujours pareil quand tu attends un gros film d'un gars que t'aimes bien ou d'un studio que t'aimes bien, t'es obligé d'être vachement sévère par rapport à d'autres. Donc pour du Pixar, c'est un petit peu décevant, mais quand même ça reste quand même un excellent film d'animation au niveau du rendu, au niveau de la mise en scène, des personnages. Et puis bon, je parlais de là-haut avec l'introduction qui arrache des larmes à n'importe qui avec le paquet Kleenex. Cette fois-ci, c'est la conclusion. Donc le final. C'est bon, il faut prévoir les mouchoirs, parce que bon, c'est voilà, ça te scie les jambes. Je dis que ça, rien que pour ça, le film vaut d'être vu. Moi, j'ai un regret, c'est que je suis allé dans une séance en 2D, il n'y avait pas le court-métrage au départ. Le court-métrage de Pixar qui traditionnellement accompagne le long. Donc je sais pas si.
Il faut aller à l'attaque sous lunettes qui font mal aux yeux pour.
Ouais, exactement.
Oh putain.
Voilà, et je suis allé à la seule séance du seul cinéma de Toulouse qui est programmé en 2D. Voilà, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc Toy Story...
Rassure-moi, c'était plus plein que dans les salles à côté.
Toy Story 3, c'était 2D... Non. Non, c'était quand même une petite salle. Enfin, une petite, relativement moyenne, mais c'était pas la The Big Salle. Toy Story 3, donc, on rappelle la référence. Film d'animation de Lee Unkrich, produit par les studios Pixar. Traditionnellement, dans chaque film Pixar, il y a un petit clin d'œil pour le film d'après. Là, je l'ai pas vu. Ou alors, ils font un remake de Totoro en 3D, je sais pas. Mais ça, on comprendra quand on verra le film d'après.
h 04 sur le supplément week-end sur Radio FMR. Petit break musical. Mokum Tooth, Shoeshine Boogie.
Set my puppy, go with my ego. White fingernail spots, reflections in more than one mirror. Da-da-da. Watching airplanes take off, you could have me climbing walls. Be a prime number, a handful of glue. The glue of night, it's yellow, strange to the touch. Metal disturbs reception. This is why they don't accept coins in space. Shoeshine Boogie. Shoeshine Boogie. Shoeshine Boogie.
myself. When you loved me later, I fell apart. Jellyfish reaction, constellations in the sky. Can't you see the space is underwater?
Je l'ai pas en entier.
Bon, mais
c'est rageant, c'est rageant.
C'est pas grave, on va pouvoir l'entendre et le voir en entier ce soir sur Arte à partir de 22h20. Arte qui nous a fait toute une campagne de pub monstrueuse.
Juste une question, en VO ou non? Tant que je blague, je tweet.
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors si, vous aurez toujours la possibilité de le voir en VO allemande. C'est français ou allemand. Alors ça sera peut-être marrant de voir Patrick McGowan parler allemand et ça renforcera votre conviction quant au fait de regarder les films en version originale. D'accord, hein. Alors Le Prisonnier, donc ce soir à partir de 22h20 sur Arte, c'est sympa, ça fait plaisir. Puis bon, au moins on sait que sur Arte, ils vont respecter l'ordre de diffusion, ce qui n'est pas négligeable. Quoique, ça n'est pas vraiment une importance fondamentale dans cette série qu'est Le Prisonnier. À part le fait de regarder le premier épisode en premier, puis les deux derniers à la fin, tous les autres épisodes, on peut les regarder un petit peu dans les ordres, parce que ce sont carrément, on pourrait dire, des one-shots, en fait. Mais qui ont bien sûr toujours, enfin bon, vous connaissez Le Prisonnier quand même, qui ont toujours, bien sûr.
C'est carrément sur la une de leur site.
Ouais, non, mais de la pub, t'en as, hein, ça n'a pas de problème, hein, si tu regardes Arte en ce moment, quoi. Alors, Le Prisonnier, donc, bien sûr. De Patrick McGowan, avec Patrick McGowan, avec des épisodes réalisés par Patrick McGowan, il en a réalisé 5 au total. Le numéro 4, Free for All. Ensuite, le numéro 7, Money Happy Returns. Le 12, A Change of Mind. Le 16, Once Upon a Time. Et le 17e, donc le dernier. Au départ, la série était prévue pour faire 26 épisodes. Mais, vu la réaction un petit peu interloquée du public quand
j'ai
ils ont
cru
commencé
comprendre
à regarder,
que c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'il avait écrit que les scénarios que pour 7 épisodes, pour lui ça devait être bouclé.
Au départ, ouais. Mais c'était prévu en 26. Mais comme au bout d'un certain temps, les téléspectateurs ont dit ouais, c'est quoi ce truc, on comprend rien, mais on sait pas où on est, où est-ce qu'il veut en venir et tout, la chaîne a dit bon, ok, on va s'arrêter à 17, basta. Et c'est pour ça qu'il a écrit une fin vite fait, quoi, enfin vite fait, non, quoi, parce que bon. c'est quand même assez magistral. Et que ça a tenu justement que 17 épisodes avec le dernier qui s'appelle Fallout. Il faut savoir aussi que certains de ces épisodes, si vous regardez les épisodes et si vous regardez le nom du réalisateur, il n'y a pas marqué Patrick McGowan surtout parce qu'il utilisait un pseudo. Et ce pseudo, c'est Joseph Cerf. Yes, man.
Et on parlait d'ordre de la série, mais il y a plusieurs ordres pour regarder la série. Tu vas en parler tout à l'heure. Mais surtout, c'est que en Angle, il y a plusieurs ordres. D'ailleurs, il y a Martin Vinclair. Ils ont republié son article sur Arte. Mais juste une chose, c'est qu'en Angleterre, la télé privée à l'époque, c'était un réseau de chaînes régionales et chacune d'entre elles diffusait la série dans l'ordre qu'ils ont voulu.
Dans l'ordre qu'ils voulaient, justement. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, de toute façon, quoi. Puisque c'est juste le début qui est important pour savoir dans quoi on met les pieds. Et
surtout parce qu'il y a un générique en entier qui donne l'histoire. Point barre.
Voilà. Mais je vais plutôt vous parler bien du personnage, enfin de l'écrivain qui est à l'origine du prisonnier, parce que tout le monde croit que c'est Patrick McGowan qui un jour a une idée de génie et tout. Il s'est dit, ah ouais, je vais faire un truc là-dessus et tout. C'est super et tout. Et puis bon, j'en reviens en plus. À ce que moi j'ai toujours pensé au départ, quoi, parce que comme j'avais suivi Patrick McGowan dans Destination Danger, la série qu'il avait fait connaître en Angleterre, surtout parce que Patrick McGowan n'est pas anglais et américain, il faut se souvenir, hein, il est à New York
Version VO.
Patrick McGowan, donc, eh bien, c'était un petit peu lié d'amitié, on va dire, avec George Markstein, qui avait déjà scénarisé donc certains épisodes de Destination Danger. Et George Markstein, donc, bien lui qui était un petit peu plus vieux que Patrick McGowan, et à peine plus vieux, hein, 1929, mort en 1987, dans les années 50, était membre des services secrets britanniques pendant la guerre froide. Puis après, on va dire démobilisé. Enfin bon, il décide de retourner à la vie civile et devient reporter criminel dans un grand journal anglais. Il travaille également pour la télé, pour Thames TV, fin des années 50. Il collabore d'ailleurs à une émission qui a eu un très grand succès, une émission d'information hebdomadaire qui s'appelle This Week en Angleterre. Et parallèlement à ça, son travail d'écriture consiste donc à scénariser quelques épisodes de feuilletons tels que Special Branch, Callan et donc Destination Danger dont je parlais avant. Et c'est lui qui, sur la base de son expérience passée, écrit un petit manuscrit de 60 pages et on le remet à Patrick McGowan en disant, tiens, j'ai une petite idée, si ça t'intéresse, on peut toujours voir ce que ça donne, on peut travailler dessus, on va voir. Et sur ce manuscrit de base, en fait, George Markstein raconte une idée, un petit peu son histoire personnelle, ce qu'il a vécu, pas lui personnellement, mais ce qu'il a connu en étant membre des services secrets britanniques, à savoir le fait de mettre des agents secrets un petit peu au repos, comme ça, de les mettre un petit peu en vacances, on va dire, hein, le temps qu'ils se reposent un petit peu, qu'ils se remettent un petit peu, et pour après les relancer dans le grand bain. Et donc, l'idée de base, c'est celle-là. Et c'est cette idée de base que George Markstein remet à Patrick McGowan pour le prisonnier. Et d'ailleurs, George Markstein, on peut l'apercevoir dans le générique du prisonnier. En fait, c'est le fonctionnaire à qui numéro 6 remet sa démission dans le générique.
Ah, d'accord.
Voilà.
Une manière assez rageuse.
Alors, Markstein co-écrit également le premier épisode de cette série, Le Prisonnier, avec David Tomlin. David Tomlin, qui d'ailleurs va écrire pratiquement l'intégralité, enfin les deux tiers des scénarii de la série du prisonnier. Il est également, Markstein, le superviseur des scénarii pendant les 13 premiers épisodes. Après, connaissant le caractère un petit peu ombragé de McGowan, Markstein se fâche avec McGowan et quitte la série et se met à écrire donc des romans policiers, bien entendu, avec un premier roman qui s'appelle Le Frigo en 74. Puis en 77, c'est Chance Awakening, qu'on connaît un petit peu mieux en France parce qu'il a été traduit en série noire une année plus tard, en 78, adapté au cinéma. C'est le fameux film Espion lève-toi, avec Lino Ventura entre autres. Puis un peu plus tard, en 78, il nous fait The Göring Testament, traduit par La Proie Gammée. Cible numéro 5 en 79, c'est Traitor for a Cause. Et un peu plus tard, dans les années 80, je rappelle qu'il est mort en 87, en 83, un livre plutôt historique qui s'appelle Tara Kane, qui raconte l'histoire d'une femme pendant la ruée vers l'or en Alaska au 19e siècle. Bref, plus rien à voir avec ses polars, ses romans d'espionnage plutôt d'ailleurs, hein, que polar, qu'il avait l'habitude d'écrire. Et il écrit également The Tip Top Boys, qui sera adapté au cinéma en 82. C'est le fameux Commando avec Schwarzy. Yes, yes, yes. Donc voilà, Mark Stein, donc je rappelle, né en 1929 et mort en 87, qui est quand même l'homme qui est à l'origine, hein, de ce fameux Prisonnier, diffusé ce soir, à partir de ce soir donc sur Arte. Arte qui diffuse d'ailleurs les trois premiers épisodes ce soir.
Et donc apparemment en VO, selon le programme télé.
Oui, mais alors, selon les abonnements...
Ah oui, c'est vrai que toi, tu es chez, voilà, Numéricable, soi-disant les pros de la télé. Oui.
Voilà,
tu m'as bol.
Compris. Tu m'as compris. Passons à tout à fait autre chose.
C'est quand même hallucinant que ce soit les plus mauvais.
Non, pas forcément, parce que bon, bah, c'est une chaîne franco-allemande.
Non, Numéricable en général.
Ouais, non, mais bon, ok. Alors, autre bonne nouvelle et autre bon retour de la télé d'été, dans cette télé d'été, avec son lot de rediffusions et de téléfilms qu'on a déjà vu 50 fois et de...
On a retrouvé la bobine de la 7ème compagnie, on a retrouvé les remakes de la 7ème compagnie.
Je ne l'ai pas programmé, il passe la semaine prochaine, mais je ne l'ai pas programmé dans mes films de la semaine.
Pitié.
Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est le retour sur France 2 dès jeudi prochain 22h50 de la boîte à musique de Jean-François Ziegel.
Oui.
Content. Et là, bah, comme on dirait que la première mouture a bien pris, que ça a bien plu, hein, et bien là, Ziegel a
c'est
décidé.
C'est la troisième saison, là.
C'est la troisième saison ?
Au moins.
Ah, bah ouais, peut-être.
Au moins, ouais. Je crois même que c'est la quatrième.
Non, c'est pas si vieux que ça, hein. Quand même, quoi. Enfin, du moins à cet horaire-là, hein, c'était peut-être diffusé, mais un petit peu plus tard dans la soirée, à mon avis. Hein. Style minuit, un truc comme ça.
Ouais. Oui, au moins, oui. Je tenais plus debout.
Voilà, non, mais c'est ça, quoi. Alors que là, bon, bah, y a encore plus d'invités que d'habitude. Hein. On se rappelle que la saison précédente, c'était plus ou moins centré sur 3-4 invités, on va dire, maximum. Hein. Et là, bon, bah, ok, y a vraiment beaucoup d'invités. Je vous ai pas noté tous parce que je sais pas qui sont vraiment tous. Y a Béatrice Uria Monzon, qui est une mezzo-soprano française, donc, et qui sera un petit peu le fil rouge de cette première émission de la saison. Hugo Frey, Nolwenn Leroy, Dissiz, Antoine Hervé, Wang Li.
Ah oui, quand même.
Sacré mélange.
Ouais,
donc,
et en général,
il y en a encore d'autres. Hein.
En général, quand tu fais venir des artistes, c'est pas des manches. Hein,
non. Là, c'est vraiment très bien. C'est toujours didactique et tout. Le thème de cette première émission, c'est la mort et la musique. Donc, ça va être super joyeux. Il n'y a pas de problème. Mais il y a de quoi faire, en tout cas. Hein, parce que c'est vraiment un des termes intemporels utilisés dans la musique, que ce soit dans la musique classique ou même dans la musique contemporaine. Donc, c'est la boîte à musique de Jean-François Ziegel. Jeudi prochain, 22h50, sur France 2. Et alors, j'allais dire, il va falloir faire un choix, parce que jeudi, c'est également, ça depuis début juillet, sur Arte, eh bien, le Summer of the 60s, chaque jeudi. Mmh. Alors, on pourra regretter la programmation un petit peu débile en ce qui concerne les films qui vont illustrer la première partie de soirée de cette Summer of the 60s. Enfin, on a les manœuvres qu'on mérite, hein, parce que bon, vraiment, nous repasser des films déjà vus 50 fois, Grease, bon, American Graffiti, d'accord, mais enfin, Grease, franchement, quoi, hein, nous parler des 60s, je vois pas tellement le rapport, franchement, quoi, hein, même si les mecs sont habillés en rocker, ben bon, à part ça, hein, bon, faut pas déconner quand même. Là, jeudi qui vient sur Arte, donc, dans le cadre de Summer of the 60s, un vieux grand classique du genre, et vas-y, tu peux l'envoyer là, hein, c'est le numéro 9.
Ah non, j'ai mis la 8.
Ah non, c'est celui-là. Crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple Eh ouais. Jailhouse Rock, donc jeudi prochain. Le film réalisé par Richard Thorpe en 1957. Deuxième film d'Elvis Presley. Le premier, dans le premier, rappelle-toi, quand il s'appelle Dick Rivers.
C'est vrai, ça vient de là. Hein.
Ouais. Avec donc dans le Rock du Bagne, Judy Tyler, l'histoire d'un jeune adulte, on va dire, ou fin d'adolescence, qui est injustement condamné et qui donc va se trouver des talents artistiques dans la prison dans laquelle il séjourne, avec cette fameuse séquence que tout le monde connaît, et donc la chanson Jailhouse Rock, bien entendu, écrite par Jerry Leber et Mike Stoller. Après ce Rock du Bagne, le documentaire qui risque la partie la plus intéressante de ce Summer of the 60s de jeudi prochain, c'est un documentaire qui s'appelle Birth of Rock. Un documentaire fait par une Allemande qui s'appelle Stéphanie Schaeffer et qui est tout récent, inédit donc, et qui va essayer de se plonger dans les sources du rock'n'roll, à savoir essayer de voir d'où vient le rock'n'roll, du hillbilly, du blues, du rhythm and blues et de toutes ces autres musiques affiliées que on dit ouais, le rock c'est un mélange de rockabilly et de blues, tu vois, alors que bon, c'est pas vrai du tout, mais ça on s'en contrefout pour l'instant. De toute façon, ça va être assez intéressant. Et après, bien 23h05, toujours dans le cadre de ce Summer of the 60s, un show qu'on a déjà vu, qui concerne Elvis, c'est son meilleur, il n'y a pas de problème, mais on l'a déjà vu.
C'est donc, ce retour
Elvis 68, comeback, bien sûr.
C'est lui qui l'a enregistré à Hawaï. Ah ouais.
Non, pas à Hawaï. Non,
c'était à Las Vegas, celui-là, pardon.
Celui qui a enregistré à Las Vegas, ouais. Où il est dans un ring, carrément, tu vois, quoi. Mmh. D'ailleurs, à un moment, il y a une fameuse scène de boxe et tout, où lui, il défie des gens. Il a commencé à apprendre le karaté. Alors bon, c'est assez rigolo, c'est un petit peu ridicule, on va dire, maintenant. Mais bon, ça vaut son coup d'œil. Et c'est surtout le comeback du rock'n'roll, parce que après des années de guimauve, après des années de films, on va dire merdiques, hein, toute la série des Viva Las Vegas et tout ça, on a Elvis qui revient aux racines du rock avec les deux musiciens qui ont les deux musiciens qui l'ont aidé à enregistrer ses premiers albums, hein, à savoir Scotty Moore, Bill Black. Hein, donc ok, tout seul sur scène avec sa truc de cuir noir, ouais, vas-y Elvis, t'es le meilleur mon gars. Mais bah, c'est con parce que ça tombe en même temps que la boîte à musique de Jean-François Zidel. Hein, donc comme on l'a déjà vu, le comeback, y a pas de problème. Hein, on préférera peut-être Jean-François Zidel. Et toujours sur Arte, là c'est pas dans le cadre de Summer of Sixties, mais c'est quand même un truc musical qui vaut son pesant de cacahuètes. Ça dure 1h30, c'est vendredi prochain. De 23h05 à 0h35, et ça s'appelle From White to White. Rappelez-vous, c'était en 1970, et c'était le pendant britannique du festival de Woodstock. Et les Anglais, pour pas être en reste, ont organisé ce fameux festival de l'île de Wight, dans lequel on a pu voir Jimi Hendrix jouer son dernier concert. Il devait mourir 15 jours après. Il y avait les Who, il y avait je sais pas qui encore, enfin bon, il y avait toute une pléiade de monde. Et au début des années 2000, on a décidé de refaire un petit peu ce festival. On sait que la mode des festivals monstres de l'été, eh bien, elle nous vient quand même d'Angleterre, hein, avec Glastonbury.
D'ailleurs, les festivals comme les festivals qui ont lieu en Espagne, je pense notamment.
Oui, non, même les européennes, les festivals allemands et tout.
Bon, oui, mais les festivals espagnols sont produits par justement les producteurs de festivals anglais.
Donc, bah, bien sûr, voilà. Bon, bah, c'est
j'avais pas parlé des
européennes. Faut prendre les meilleurs. Et donc, eh bien, ça va être un habile mélange entre des images de ce qui s'est passé sur l'île de Wight en 70 et les Isle of Wight Festival un peu plus récent où c'est pareil, hein, on a eu le gratin de la musique rock actuelle, McCartney, les White Stripes, j'en passe, et des meilleurs, enfin moi, et pas seulement dans le rock, hein, d'ailleurs, donc ça risque d'être assez intéressant. C'est vendredi prochain sur Arte à partir de 23h05 jusqu'à 0h35. Vite fait, si on avait fait des émissions la semaine passée, j'aurais pu vous en parler en preview. Là, ce sera un post-view, hein, carrément, quoi. C'est The Bridge sur 13e rue, diffusé soit le lundi, soit le dimanche en fin d'après-midi. C'est une série canadienne et c'est un polar qui se déroule à Toronto et qui nous raconte l'histoire d'une bande de flics du terrain, c'est-à-dire des flics en uniforme, dont le héros Frank Léo, en fait, dès le premier épisode, se voit plus ou moins catapulté à la tête du syndicat des flics. pour défendre les intérêts des flics et pour essayer de ménager la chèvre et le chou avec les patrons de la police qui sont plus intéressés politiquement à la façon de faire marcher les choses, à la façon de faire tourner leur boutique, plutôt que de s'occuper du tout venant, du commun, du quotidien, des flics de base. Et donc Franck Léo va gravir les échelons assez rapidement d'ailleurs dans la série, hein, en 3 épisodes c'est plié, c'est bon, hein, il est le patron du syndicat et tout, il a 8000 flics qui ont voté pour lui, enfin bon, l'ensemble des flics de Toronto en fait, et donc on va magouiller un petit peu, on peut pas dire un autre terme, hein, de toute façon, quoi, pour essayer de justement de ménager un petit peu les intérêts de chacun. Alors c'est des petits jeux de d'agent double comme ça, oui je te donne ça mais je prends quelque chose d'autre en échange et tout, mais je garde toujours quelque chose en sous-main et tout, quoi. C'est là que c'est assez intéressant, la production, j'allais dire la distribution est assez bien faite aussi, avec Aaron Douglas dans le rôle principal, celui de Frank Léo, mais également Paul Popovich qu'on avait également vu dans d'autres séries canadiennes dont Cold Squad, Ona Grower qui joue le rôle de l'avocat, Tinga Cananel, enfin bref, c'est une petite série qui paye pas de mine comme ça, mais qui vraiment tient la route. Le rythme est assez rapide, hein, c'est ça qui est assez intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on passe très vite du coq à l'âne, dans le temps on saute des mois assez rapidement, quoi, d'épisode en épisode, donc on s'y retrouve quand même pas mal. Bon, c'est quand même bien de regarder ça depuis le début pour essayer de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants et la position et l'évolution des différents personnages, hein, parce que ça va assez rapidement, hein. Donc il y a une rediffusion qui est proposée dimanche à partir de 17h40 avec les 3 premiers épisodes, Red Door, Painted Black et The Fat Lady Sings the Blues, et lundi donc en première partie de soirée à partir de 20h35 ou 20h45 les épisodes suivants, le 4 et le 5. Le 4 s'appelle Vexation of Spirit et le 5 Damned If You Do. Et il faut également signaler que The Bridge est une série. Alors bon, on nous la vend comme étant le pendant canadien de The Shield. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir. C'est pas aussi trash quand même. Il y a une part de vérité, on va dire, parce qu'on essaie de gratter un petit peu, hein, plus profond que le commun des flics habituellement abordés dans les séries policières. Mais c'est une série qui a quand même été initiée par le producteur. Frank Wertheimer, je crois, qui est un ancien flic à la base et qui a vécu cette situation, car il est à l'origine de la création du premier syndicat de flics à Toronto. Donc il sait de quoi il parle, hein, c'est on va dire un petit peu de l'histoire vécue, mais ça c'est assez rentre dedans quand même, hein, vu ce qui nous est proposé. Pas mal de morts quand même, quoi, ça dépote pas mal, et des trucs pas reluisants, on va dire, du tout, hein. Que ce soit de la part des flics ou de la part des criminels, bien entendu. C'est The Bridge donc, et c'est sur 13e rue, soit dimanche donc à 17h40 pour les 3 premiers épisodes, ou lundi à partir de 20h45 pour les 2 épisodes qui suivent, une série qui fait 13 épisodes dans sa première saison. Des films à présent, et pas beaucoup parce qu'il est 13h30 déjà, avec ce soir sur 13e rue, Le Vaisseau Fantôme de Stuart Orme, c'est britannique, et c'est une histoire un petit peu fantastique avec David Jason, Ian Pulleston, Davis et Tony Hargate, ou des marins d'un cargo rencontre un sous-marin, mais ce sous-marin, ben, il date de la Deuxième Guerre mondiale. Problème.
La Deuxième Guerre mondiale est déjà terminée.
Demain, sur NRJ12, Wolfhound de Nikolai Lebedev avec Alexander Bukharov, Oksana Aksinchina et Igor Petrenko, une histoire de vengeance où un jeune garçon qui voit toute sa famille se faire massacrer par des brigands, mais décide de se venger. Ouais. Sur Direct 8, une petite curiosité, un film tourné entre deux bons films de Don Siegel, c'est Contre une poignée de diamants, du même Don Siegel en 74, donc entre deux inspecteurs Harry, avec Michael Caine et Donald Pleasance.
Oh, ça peut être que bien.
Ça peut le faire quand même. Sur 13e rue, à 20h40, demain, De l'amour, un Jean-François Richet qui n'est pas tellement connu.
Hein, je l'ai vu au cinéma.
Avec Tommy Bugsy, ouais. Mar, Sonoupé, Virginie Ledoyen, à poil.
Non.
Karim Mathia, si si.
Non.
Si
non.
Si.
Non.
Ah si si.
Non.
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 Non. Si si.
Non non, les filles sont mal, les filles sont.
Non mais c'est marrant parce
et
que
et Jean-François Stéble.
Parce que c'est marrant parce que c'était la tentative une incursion de Richer dans le film d'amour. Et sauf que quand tu vois ce film là, c'est pas
ouais, c'est pas d'amour hein.
Enfin c'est un film d'amour mais avec du trash mais ouais. De la vie aussi parce que Jean-François Stévenin, il est juste il voilà, il te fait peur quoi.
Il est parfait dans les rôles de salaud.
Ah hein, putain.
demain également sur TCM deux films magnifiques avec Kirk Douglas, tout d'abord El Perdido de Robert Aldrich en 61, scénario de Dalton Trumbo avec Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone et Joseph Cotten. Et ensuite à 22h30 TCM vous propose demain soir 15 jours ailleurs de Vincente Minnelli avec Kirk Douglas, Edward G. Robinson et Sid Charis, où Kirk Douglas il reprend le rôle du producteur qu'il avait dans Les Ensorcelés, et donc l'histoire est située 15 ans plus tard. Et ils sont en Europe, ils sont à Rome. Et là, c'est magnifique également. Enfin bon, de toute façon, il n'y a rien à dire. Hein, c'est du Minnelli. Et en plus, Sid Charis, là, joue un rôle parlant. C'est-à-dire que tu ne la vois pas danser, tout comme d'habitude dans les comédies musicales. Non, non, là, c'est pas une comédie musicale. Bien que Minnelli soit quand même un des grands maîtres de la comédie musicale. Non, non, c'est un film normal. Hein. Mais c'est très, très bien. Lundi, sur France 2, à 22h45, Le Parrain. Bah voilà, comme ça, hein, histoire de... Mais sur France 3, par contre, à 14h45, Perry Mason, donc dans Meurtre à Broadway, avec bon la série téléfilm avec Raymond Burr et Barbara Hel. Là, eh bien les guest stars sont Dwight Schultz.
Oui, Jean Stoïc. Ouais. Dwight Schultz, donc c'est.
Ouais.
Dwight Schultz, c'est donc c'est Looping.
C'est Looping, ouais, ouais, ouais. Et Debbie Reynolds. Ensuite, toujours lundi sur Arte à 20h35, Le Convoi des Braves de John Ford. Ouais, rien à dire, hein. Avec Ben Johnson, Harry Carey, Ward Bond et Johan Dru.
Noir et blanc, si je me souviens bien.
Bah ouais, bah
ouais. Oui, forcément.
Non, non, mais bien quand même, hein.
Voilà.
Attends, c'est un bon western, quoi. Mmh. Sur RTL9 à 20h35, Résurrection de Russell Mulcahy avec Christophe Lambert et Leland Orser, ainsi que David Cronenberg. Yes,
je crois qu'il joue un prêtre, je crois, dedans.
Ah, possible, possible. Sur NRJ 12, lundi, à 22h45, Vipère de Bill Corcoran, avec Tara Reid, Jonathan Scarf et Corbin Bernsen. Sinon, on a également sur Polar, 21h, Sang et Or de Robert Rosen en 47, avec John Garfield dans le rôle d'un jeune boxeur qui va être très mal conseillé et qui, au lieu de suivre une carrière sportive normale, eh bien, va se retrouver dans une magouille de combats truqués, de trucs comme ça. Avec, outre John Garfield, Lily Palmer et William Conrad. Rappelez-vous, Nero Wolf, l'homme à l'orchidée. Là, il était vachement plus jeune quand même, parce que c'était en 47. Mardi, sur NT1, ouais, super, 20h30, le spécialiste de Sergio Corbucci, avec Johnny Hallyday, Mario Adorf pour la caution artistique, hein, c'est-à-dire au moins on met des acteurs qui savent jouer, et Françoise Fabian. Sur 13ème rue, mardi toujours 20h40, deux escrocs, un fiasco de Joey Travolta, le frère de l'autre, avec Casper Van Dien, Vanessa Angel et David Paymer. Sur CinéFX, lundi toujours, les tueurs venus de l'espace de Will Lee Wilder en 54 avec Peter Graves et Steve Pendleton.
Non. Ouais. Monsieur Phelps dans une série B.
Alors ça c'était non c'était ouais c'était lundi mardi il y a pas grand chose c'est, non c'était mardi donc hein, ça les tueurs venus de l'espace mercredi le retour sur RTL9 Mutant Aquatique en liberté de Sean Cunningham, Marius Meyers, Miguel Ferrer, Nancy Everhart, Greg Evigan, Taurine Black, ouais le mutant est de retour sur NT1 bah toujours dans la veine reptile. À 23h25, Komodo versus Cobra de Jim Wynorski avec Michael Paré et Michel Borse. Est-ce que sur Polar, mercredi prochain, un bon Polar, 22h50, Le Solitaire de Michael Mann en 81 avec James Caan, Tuesday Weld de Robert Prosky et Willie Nelson. Un autre Cunningham jeudi sur 13ème rue, c'est Terry Cunningham pour Secret Défense avec Antonio Sabato Jr., Fred Ward, Kelly Rutherford et Robert Lee Hermey. Un grand classique, un énorme film, énorme, énorme sur ciné-cinéma classique, jeudi prochain à 20h40. Drôle de drame de Marcel Carnet, dialogue de Prévert, Louis Jouvet, Françoise Rosay, Michel Simon, Jean-Louis Barrault. Alors là, laissez tomber, hein, y a rien à dire, de toute façon. sur Polar, toujours jeudi prochain à 21h, Association criminelle de G.H. Lewis en 55, avec Cornel Wilde, Gene Wallace, Richard Conte et Brian Donlevy. Enfin, vendredi sur Canal+, 22h20, c'est pas une première diffusion, mais ça vaut le coup quand même, Public Enemies de Michael Mann, hein, enfin à la oui. télé. Sur RTL9, dans le cadre du vendredi Shaolin, 22h20, Flying Dagger de Yen Ping Chu en 93, pardon, avec Tony Leung, Jimmy Lin et Maggie Chung. NT1, toujours dans le style reptile, Morsure de Tony Randall en 96 avec William Catt, Shanna Reed, Michael Galeotto et Clint Howard. Et toujours vendredi, sur Ciné-Cinéma Frisson à 21h, Les Promesses de l'Ombre de Cronenberg.
Bien.
Pas mal. Ou alors sur Ciné-Cinéma Famise, À nous la victoire de John Huston.
Encore.
Avec Michael Caine et Carol Lore et tous les footballeurs, bien sûr. Sur TCM.
Et Stallone.
Ouais, ouais, Stallone, bien sûr. Sur TCM à 20h40, La Vallée de la Poudre de George Marshall. En 58 avec Glenn Ford, Leslie Nielsen et Shirley MacLaine. Alors c'est intéressant parce qu'il y a Leslie Nielsen. Bon, c'était l'époque où il a fait Planète Interdite, donc vachement jeune, beau et tout, jeune premier pratiquement quoi, tu vois. Hein, mais c'est aussi intéressant parce que l'histoire elle est vachement rigolote. C'est Glenn Ford qui est un éleveur de moutons et qui arrive dans une vallée et qui va être confronté à tous les autres éleveurs qui eux élèvent des bovins. Et
donc, ça n'a pas été repris dans un Lucky Luke, ce script.
Ah ouais, mais là, je veux dire, c'est de 58, hein, donc Lucky Luke à l'époque.
Ah ouais, non, mais Maurice n'a rien caché qu'il a pompé énormément sur les westerns de l'époque. Hein, mais,
ouais, non, mais là, ça vaut le coup parce que bon, c'est la métaphore de celui qui fait les choses différentes et qui arrive chez toi. Eh bien, c'est toujours l'étranger, il restera l'étranger. Ouais. On termine avec Polar vendredi prochain à 21h, L'homme au masque de verre, un polar britannique de 58 de Guy Green avec Peter Van Eyck, Betta St. John et Mandy Miller. Et je vous avais pas dit que ce soir sur RTL9. Oula,
il vient d'exploser en vol.
Sabata de Gianfranco Parolini, bien sûr. Et vendredi sur Action à 21h, on termine par ça, c'est le retour de Sabata de Gianfranco Parolini avec bien sûr Lee Van Cleef.
Et c'est ainsi que se termine le supplément week-end. Oui, je sais. Vous avez malencontreusement loupé le début de l'émission parce que vous nous écoutez encore en stéréo, en FM, voire vous êtes un peu plus moderne en stream sur le net comme ça parce que vous avez vu nos live tweets et vous avez dit « Ouais, super, je vais y aller. Thomas, s'il te plaît, dis-leur ce qu'ils ont manqué. »
Eh bien, justement, il s'agissait du retour du supplément week-end aujourd'hui après 3 semaines d'absence, du sport à squatter le PC pour une recherche Google. On a eu du texte qui pique aux yeux, un tonton en peinture, le retour des Skrulls, Okusai revient en chronique version longue de la télé-réalité, des jouets dans le grenier, le King en Dick Rivers, un parrain, voilà, comme ça. Des tueurs venus de l'espace, le mutant est de retour avec d'autres reptiles aussi, des morsures et des moutons et des bovins.
Nom d'un Tourmalet, ils ont manqué tout ça. Plutôt deux d'ailleurs, plutôt qu'un. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver nos chroniques écrites, fouiller dans nos archives pour voir nos anciennes chroniques. Laissez vos commentaires, posez vos questions à l'équipe. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr, supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net. La semaine prochaine, n'oubliez pas que c'est la fête de la BD Eos dans le Gers. Mais nous, on se donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye. À 13h40, je cède la place au producteur de l'émission suivante qui est pas du tout content qu'on ait encore débordé. Ciao, plus.